Bonjour à tous, merci d'être venus très nombreux. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est bon. Donc je vais vous parler cette année, peut-être on peut avoir un peu moins de lumière pour qu'on puisse voir l'écran. Les cours de cette année vont avoir lieu sur les trous noirs supermassifs, les noyaux actifs et les quasars. Et nous aurons tout à l'heure un séminaire de Jean-Pierre Luminet, un spécialiste des trous noirs, qui va nous parler de la physique des trous noirs. Moi, je vais vous faire cette séance un survol un peu de ce que l'on sait sur ces trous noirs supermassifs et l'histoire un petit peu, et puis comment ils se forment, quelles sont les caractéristiques. Et ça va ouvrir un petit peu les problèmes dont on va traiter toutes les semaines suivantes. Alors déjà, un peu d'histoire. OK. Donc, ces galaxies très particulières, qui sont des galaxies actives, noyaux actifs, très brillantes, ont été détectées surtout en radioastronomie. C'est Grote-Reber, en 1939, qui avait détecté des radiosources, donc très lumineuses, notamment Cygnusa. Vous avez une photo actuelle, hein, ce n'est pas ce qu'il voyait à l'époque, photo actuelle de Cygnusa avec son trou noir central. On sait qu'il y a un trou noir supermassif au centre ici, avec des jets et des lobes radio. Évidemment, c'est une image du VLA à très haute résolution qu'il n'avait pas. Lui, il avait juste un point source. Il avait commencé à détecter des objets très bizarres dans tout le ciel qu'on appelait radiosources. Il y avait aussi, à peu près à la même époque, Karl Seyfert, qui est représenté ici, qui n'a pas été connu de son vivant, mais après coup, qui avait détecté des galaxies en optique très bizarres avec des raies d'émission de leur noyau qui étaient à des raies très très larges en vitesse et très brillantes. Alors si on peut regarder deux galaxies aujourd'hui avec des images du Space Telescope, donc beaucoup plus de résolution que ce qu'ils voyaient, on voit deux galaxies, une qui est complètement normale. Vous voyez que le noyau est brillant, mais enfin il n'est pas ponctuel, il ne représente pas un pic de lumière. Et ici, je ne sais pas si la qualité de l'image est assez bonne, vous avez des aigrettes de diffraction typiques d'une étoile. Donc, en effet, ce sont des noyaux qui sont très, très ponctuels, qui ne sont pas résolus, et qui scintillent, en quelque sorte, qui font des aigrettes de diffraction. Donc ça, c'est la grande différence. Les noyaux actifs sont très, très puissants et dans une petite surface. Donc, Seyfert, le premier à les classifier. On voit ici un spectre, c'est ça qu'il trouvait très remarquable, un spectre dans l'UV, à fort rayonnement UV. Vous avez ici le même spectre, mais agrandi en intensité, vous voyez, 30 et 6. Ici, on voit que les raies sont très larges, et puis il y a des petites raies qui paraissent être dans le bruit et qui finalement sont des raies d'éléments très excités, comme N4 ou N5, etc. Donc ça, c'est le rayonnement UV. Et vous avez un rayonnement visible, 4000 angstroms, 5000 angstroms, donc 0,5 micron. Vous avez à nouveau, à grande échelle, 6, et puis un zoom, c'est le même spectre, mais amplifié. Vous voyez qu'il y a des raies très, très larges, et puis des raies fines. Alors, ces raies fines, on va le décrire, ce sont des raies qu'on dit interdites. On les caractérise par des crochets. Hein, c'est l'ion oxygène ionisé deux fois. Et les raies qui sont interdites, on va dire pourquoi, elles sont très fines, et le reste est très, très large. Donc là, il y a une très haute excitation, ce que déjà avait remarqué Karl Seyfert, des ailes de raies qui correspondent à des vitesses Doppler de 10 000 km par seconde. C'est énorme. Quand on regarde pour la rotation d'une galaxie, c'est 200 km par seconde. Donc, vous voyez, c'est remarquable. Et puis, surtout, dans un très, très petit volume, pour les galaxies proches, c'est dans un parsec, c'est-à-dire trois années-lumière, que l'on voit des masses de l'ordre des puissances 9. Si on croit les vitesses, on a des masses énormes. Comment est-ce possible ? Alors vous voyez ici le flux complet, cette fois-ci, en ultraviolet, optique, et puis même infrarouge à 2 microns, infrarouge proche, où l'on voit qu'il y a un très fort continuum qui décroît en loi de puissance, et puis un grand nombre de raies. Ça, c'est la caractéristique de ces galaxies de Seyfert. On verra qu'il y a plusieurs sortes de galaxies de Seyfert. Alors, les types de raies, j'ai déjà prononcé le mot réinterdite ou répermise. Pourquoi ? Alors, ces raies interdites, c'est des raies qu'on ne voit pas en laboratoire. C'est pour ça qu'on pense qu'elles sont interdites. On ne les voit que dans l'espace. Pourquoi ? Parce que c'est deux niveaux d'un atome ou d'un ion. Le niveau supérieur ne se désintègre pas au niveau supérieur en émettant un photon, de la lumière, parce que le coefficient d'Einstein est très faible. Et donc, en laboratoire, vous avez des gaz qui sont à très grande densité, des puissances 20 par particule par centimètre cube. Et donc, le niveau supérieur se désexcite en niveau inférieur par des collisions entre eux ou avec des parois. Évidemment, dans l'espace interstellaire, vous avez des gaz très diffus, moins que 1000 atomes par centimètre cube. Et donc, on peut attendre, sans avoir des collisions, on peut attendre que ce niveau se désexcite et on a cette raie qu'on appelle interdite. Donc, vous voyez que c'est déjà intéressant, ça vous dit que le milieu qui émet ces raies interdites est très diffus. Et puis, on a des raies dites permises. Alors, c'est les seules raies permises qui sont à 10 000 km par seconde. Ce sont des raies de recombinaison, par exemple l'hydrogène, Lyman alpha, le premier niveau, et puis les raies de Balmer, les raies de Lyman, H alpha, H beta, etc. Donc, en résumé, pour ces raies permises et interdites, hein, on a les raies permises sont les raies de recombinaison. Et elles sont émises avec des densités électroniques qui sont très fortes, 10 puissance 7, 10 puissance 9. Par contre, les raies interdites sont émises par des milieux diffus. Et on pense, comme il n'y a que très peu de vitesse, les raies sont très fines, que ce milieu diffus est émis très loin du trou noir. Alors, on ne peut avoir de raies que permises très près du trou noir parce que le gaz est très dense. En gros, c'est cela l'explication. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a des très grands degrés d'ionisation. Alors, on a évidemment à la fois le milieu neutre, O1, la première espèce, c'est définitivement 1, l'oxygène et l'azote 1, et puis on va jusqu'au néon 5 ou au oxygène 6, ce qui n'est pas possible d'exciter aussi, d'ioniser autant avec des étoiles très chaudes, par exemple les étoiles OB, qui ont beau avoir 10 000 degrés K, ne pourront pas ioniser. Donc il nous faut quelque chose de spécial qui n'est pas la physique stellaire. L'excitation des raies est aussi bizarre dans le rapport des raies de Balmer, le décrément de Balmer, H alpha, H beta, H gamma. Normalement, on a ce rapport de raies pour des étoiles O et B, c'est-à-dire à 10 000 degrés K, et là, ce n'est pas du tout le même décrément. Alors évidemment, ce décrément pourrait venir d'extinction. C'est en effet une façon de mesurer le rougissement ou l'extinction en regardant le décrément de Balmer. Mais on peut distinguer entre l'excitation et le rougissement parce que le continuum et les raies devraient avoir le même rougissement. En fait, ce n'est pas le cas. Donc, c'est vraiment de l'excitation différente. Alors, pour le milieu qui est très dense et qui émet les raies permises, on sait que, comme ce sont des raies de recombinaison, c'est proportionnel à la densité. Donc, on a quelque chose qui est tellement dense qu'on peut très bien avoir très peu de masse. Donc voilà la vue qui commence à se dessiner, c'est qu'on a très peu de masse, mais très dense, qui émet énormément de raies permises. Ça peut être seulement 25 masses solaires de gaz autour. Et par contre, dans un volume plus grand, le gaz diffus, mais comme le volume est plus grand, ça peut être des masses bien plus grandes qui émettent les raies interdites. Alors si je reviens après cette parenthèse entre les raies larges et les raies étroites, l'histoire de la découverte des quasars, donc après, dans les années 40-50, on continue par la radioastronomie, qui est décidément les premières à avoir vu les objets les plus remarquables. Il s'agissait de l'interféromètre de Cambridge. C'est pourquoi il cartographiait tout le ciel dans un catalogue qui s'appelait d'abord 1C pour le premier de Cambridge, puis 2C. En fait, ce qu'on a retenu, c'est 3C et 4C. Donc, il y a un grand nombre de radiosources qui sont appelées 3C ou 4C, qui vient donc de toute la cartographie de l'hémisphère nord par Cambridge. Vous voyez une de ces radiosources. Et là, on commençait à la même époque à observer ce qu'on appelle quasars, c'est-à-dire des objets lumineux en optique, dans le visible, qui sont ponctuels, presque des quasi-stars, d'où vient le raccourcissement du mot en quasar. Un peu des galaxies de Seyfert, mais encore plus brillantes. On voit que c'est un peu la même chose, en fait. Et on ne savait pas du tout ce que c'est, c'est-à-dire qu'on n'avait pas le spectre du quasar encore, on ne savait pas si c'était, par exemple, des étoiles dans la Voie lactée, très proches, ou bien des objets très lointains. S'ils sont très éloignés et qu'on a un redshift, un décalage vers le rouge cosmologique, à ce moment-là, ce sont des objets très, très, très puissants. Et on commence à voir une association entre le centre de la radiosource, 3C, et le quasar. Donc là, on commence à faire des progrès dans l'identification de ces sources. Et en 1963, vous voyez, un peu 20 ans après, c'est Martin Schmidt qui a vraiment découvert les quasars. Vous voyez qu'il fait la une du Time Magazine dans le quasar 3C273, encore une radiosource qui avait été déjà observée par le catalogue de Cambridge. Vous voyez une image actuelle, hein, évidemment, plus jolie, c'est ça, une image du Hubble Space Telescope. Vous voyez même un jet qui sort ici. On voit les aigrettes de diffraction, on voit que c'est vraiment presque une étoile. Et si on n'avait pas le spectre, on pourrait la confondre avec une étoile. Et le spectre ici, ce qu'a fait Martin Schmidt, c'est de voir qu'il était très décalé vers le rouge et que ce quasar, en effet, était à 2 milliards d'années-lumière, si vous croyez que le décalage est dû à l'expansion. Donc on voit que c'est un objet qui est à l'extérieur de notre galaxie et donc très très puissant. Aujourd'hui, on peut, avec le Hubble Space Telescope, en effet, soustraire le point brillant. On a assez de dynamique pour soustraire la réponse du télescope à une source ponctuelle. Vous voyez que ici, c'est un petit peu, on a un petit problème juste de trou lorsqu'on soustrait, mais ça nous permet de voir ce qu'il y a sous-jacent et on voit qu'il y a une galaxie sous-jacente. Donc là, c'est vraiment une preuve que ces objets ne sont pas dans la Voie lactée, mais sont des galaxies extérieures et que le redshift est bien dû à l'expansion. Et donc, on a bien quelque chose qui est à 2 milliards d'années-lumière de nous. Donc, ce sont vraiment des quasars. Et on voit bien que le G ici, on va le voir, est une manifestation de l'activité du trou noir. Alors, ces objets aussi sont variables. Et de leur variabilité, on peut tirer leur taille. Alors, en effet... ici, je représente un petit cartoon, si vous voulez, pour vous dire que lorsqu'on a une région en bleu ici, de taille, mettons, D, donc la lumière met un temps T à parcourir d'un bout à l'autre de cette structure-là, hein, T égale D sur C, donc on voit que s'il y a une variation de delta T, sur une échelle delta T, on voit que la lumière met un certain temps pour venir de A, beaucoup plus long que B. Et la différence des deux temps sera évidemment le temps D sur C. Donc, et puis tous les points entre aussi vont avoir des pics qui vont arriver vers l'observateur à des temps différents. Donc tout ça va se moyenner et vous ne verrez plus la variabilité si la source est trop grande par rapport à delta T. Donc pour que vous voyez une variation, il faut que la source soit plus petite que l'échelle de la variation. Donc si vous voyez une variation sur une heure-lumière, il faut que la source soit plus petite que l'heure-lumière en taille. Une variation d'heure, pas l'échelle de temps l'heure, il faut que la taille de la source soit plus petite qu'une heure-lumière. Donc tout de suite, si vous voyez les variations, ça vous donne une idée de la taille, même si vous n'avez pas, évidemment, tout le phénomène des quasars d'un noyau actif est très très petit, et on n'a jamais la résolution spatiale pour voir ce qu'il y a. Donc il nous faut d'autres éléments indirects qui nous donnent la taille, et la variabilité est un de ces éléments. Alors cette variabilité, on peut être trompé, par exemple, dans cette variabilité. Bon, elle a lieu sur les zones, alors que je vais appeler BLR pour être commun, tout le monde appelle BLR, ça vient de l'anglais qui veut dire Broad Line Region. Vous avez vu que dans les spectres, on avait des raies larges. Donc les raies d'émission donc permises sont émises par ce qu'on va appeler BLR, donc région de raies larges. Et puis, par exemple, les raies qui sont très étroites, narrow line region, on va l'appeler NLR pour être exactement dans le vocabulaire employé, que ce soit français ou anglais. Et donc, dans ces deux régions, on voit que les régions BLR sont des variations beaucoup plus petites en temps. Donc, ce sont en effet, ça correspond à l'idée qu'on se fait que ces BLR sont près du trou noir et de petite taille, alors que l'NLR, qui n'a une variabilité beaucoup moindre, c'est vraiment des zones un peu plus étendues et diffuses autour du trou noir. Ça marche bien. Parfois, on est trompé par des effets relativistes. Par exemple, lorsqu'on a un jet de matière qui vient vers vous, comme les électrons sont très relativistes, vont à une vitesse proche de C, on peut avoir des effets superluminiques, dont on expliquera dans des séances futures. Pour l'instant, je le mentionne. Mais à ce moment-là, si la vitesse va plus vite, enfin la vitesse apparente, hein, on ne va jamais plus vite que la vitesse de la lumière, mais la vitesse apparente vers vous est superluminique, on peut avoir une impression fausse de variabilité très grande, alors que la taille de la source ne correspond pas. Donc là, il faut faire attention lorsqu'on a ces objets qu'on appelle BLAC ou blazar. Alors pourquoi ? Parce que le premier objet qu'on a observé dans ce genre était dans la constellation de BL Lacertide. Et puis ensuite, on a comprimé le mot, on l'appelait blazar, comme le quasar. Mais ça veut dire que tous les objets de ce type de blazar sont des quasars, en fait, où le G vient vers vous, en quelque sorte. Et donc, on peut être trompé sur sa variabilité. Alors justement, la nature de la source qu'il y a au centre, elle est difficile à avoir. J'ai essayé de représenter en fonction du rayon ce que l'on voit avec les télescopes. Ici, c'est la luminosité en logarithme ou en magnitude, si vous voulez. Et on sait qu'on a d'abord la luminosité des étoiles, qui est une exponentielle, donc en log, ça va faire une droite ici. Et puis, il y a une source ponctuelle, et on n'a jamais assez de résolution pour voir de quoi elle est faite. Donc, on a la courbe totale de lumière, et on va essayer de trouver ce qu'il y ait très proche de ce trou noir. Alors, ce qu'on peut faire, c'est se servir du spectre. Alors, vous voyez qu'on a un spectre typique d'un quasar, par Malkan ici, où on a, à basse fréquence, on a une émission synchrotron, qui est l'émission d'électrons relativistes dans un champ magnétique, qui est une loi de puissance, donc en log, c'est une droite. Et puis, on a quelque chose à plus haute fréquence, donc des corps noirs, en fait, des émissions thermiques, si vous voulez, et qui dépendent de la proximité au trou noir. Plus on est proche du trou noir, plus ça va être chaud, plus ça va être brillant. Donc, on peut avoir trois composantes, une proche du trou noir, une intermédiaire et une extérieure. Et en faisant ces modèles-là, on peut avoir une petite idée de ce qui se passe autour du trou noir, une disagrégation peut-être à une certaine température. Enfin, c'est en gros ce que je veux essayer de montrer ici, c'est comment par le spectre on peut avoir une idée de la distribution spatiale de la matière alors qu'on n'a pas la résolution spatiale pour le voir. Alors, on sait que dans un tout petit volume, il y a des énergies énormes qui sont données par ces quasars. Alors, les galaxies de Seyfert, qui sont des petits quasars en quelque sorte, ça peut donner 100 fois la luminosité de la galaxie, d'une galaxie comme la Voie lactée. Les quasars, c'est exactement comme les galaxies de Seyfert, mais beaucoup plus puissant. Ça peut être jusqu'à 1000 fois la galaxie. C'est pour ça que le quasar 3C273 que vous avez tout à l'heure, on ne voyait pratiquement pas la galaxie dessous. On a 1000 fois l'émission de toutes les étoiles de la galaxie. Donc d'où sort cette énergie ? Alors évidemment, on peut penser à l'énergie nucléaire qu'il y a dans les étoiles, mais vous voyez que l'efficacité pour fusionner des atomes d'hydrogène en atomes d'hélium, ce qui se passe dans le Soleil, n'est que on ne récupère que 0,007 fois l'énergie de masse MC2 que l'on a amenée dans la fusion. Alors c'est déjà énorme. Si on pouvait disposer de cette fusion dans les tokamaks, etc., on aurait résolu un grand problème d'énergie, mais c'est quand même assez faible par rapport au rayonnement d'une galaxie. Alors pour donner une idée des luminosités en jeu, dans les étoiles, on a par exemple pour la Voie lactée 2 10 puissance 10 luminosité solaire, c'est-à-dire en watts, si vous voulez, ou en erg, 10 puissance 43 erg par seconde. Et le quasar, c'est 10 puissance 46. Donc vous voyez qu'on a un petit problème. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on aurait pu penser à l'énergie de masse de toute la galaxie. Alors, quelle est l'énergie qu'on récupère en faisant arriver toute la masse d'une galaxie à sa position actuelle ? Ça, c'est l'énergie potentielle de la galaxie, qui est aussi égale à un facteur de près à l'énergie cinétique, si vous voulez. Alors, on peut le calculer, même si on prend toute la matière noire qu'il y a autour, c'est-à-dire que la Voie lactée, elle a une masse de 10 puissance 12 masse solaire, si on prend en compte toute la matière noire, on a l'énergie potentielle qui est de l'ordre de 10 puissance 60 au plus. Et c'est assez amusant de voir que c'est du même ordre que toute l'énergie rayonnée pendant un milliard d'années par toutes ces étoiles. Si je multiplie par un milliard d'années la puissance ici, je trouve cette 10 puissance 60 erg. Mais vous voyez que c'est quand même très petit devant l'émission du quasar. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut ? Très vite, si je poursuis mon historique ici, très vite, les théoriciens ont su qu'il fallait faire appel à un trou noir parce qu'il n'y avait que l'énergie gravitationnelle qui pourrait dépasser de plusieurs ordres de grandeur l'énergie des étoiles, l'énergie nucléaire. Donc ça a été fait par Royle Fowler en 63, 69, etc., juste après la découverte des quasars par Martin Schmidt. Donc, c'est quelque chose de bien établi. On connaissait les trous noirs, comme va nous le dire Jean-Pierre, depuis un siècle auparavant, mais c'était très théorique. Ici, on commence à toucher à une application. Alors, d'où sort cette énergie ? C'est simplement l'énergie gravitationnelle dont on a l'habitude sur Terre, par exemple, lorsqu'on prend un barrage où on a, par exemple, de l'eau qui tombe et qui perd l'énergie gravitationnelle et qui fait l'énergie cinétique. Donc, ça paraît une énergie faible, mais ici, l'énergie est très très grande puisqu'on a un objet trou noir qui est très concentré. La définition du trou noir, que je dirais très très simple ici, c'est un objet qui est tellement concentré que la vitesse d'échappement est plus grande que la vitesse de la lumière à un certain rayon, et donc même la lumière ne peut pas s'en sortir. Alors on peut calculer un certain rayon critique qu'on appelle horizon d'événement, où justement la vitesse d'échappement est égale à la vitesse de la lumière. Comme vous savez que la vitesse d'échappement, c'est 2gm sur r, à un certain rayon. Ici, si on remplace la vitesse par c au carré, on a vraiment l'horizon, le rayon, au-delà duquel la lumière ne sort pas. Donc on a vraiment l'horizon, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de ce rayon, puisque aucun messager pourra nous parvenir. Alors vous voyez que ce rayon est proportionnel à la masse, ce qui veut dire que la densité moyenne va être en 1 sur M2, la densité moyenne des trous noirs très massifs va être très faible, et ce sont les petits trous noirs qui seront les plus condensés. Ici, on a, par exemple, pour les trous noirs supermassifs qu'il y a au centre des galaxies, c'est 10 puissance 8, 10 puissance 9 masse solaire, on a l'ordre de grandeur de 2,5 heures-lumière. Dans notre galaxie, on a encore quelque chose de beaucoup plus court, de plus petit, puisque dans la Voie lactée, on a un trou noir de 4 millions de masse solaire, donc vous voyez, 1000 fois moins. Ça peut être très petit. Donc c'est pourquoi on voit pourquoi la variabilité du gaz qui va tomber dessus est en heure-lumière la plupart du temps. Alors ici, j'ai un petit dessin qui vous montre en orange des orbites stables autour du trou noir. Vous voyez que les orbites stables ne vont pas jusqu'au bout. Pour un trou noir classique qui ne tourne pas, on voit que la matière va spiraler inexorablement vers le centre ici. Et en spiralant, elle va rentrer en choc. Il va y avoir des chocs qui vont chauffer le gaz. Et c'est ce réchauffement et ces chocs qui vont émettre de la lumière, des rayons X, des rayons UV. Et vous voyez que l'énergie maximum disponible, si on regarde l'énergie potentielle, c'est une grande fraction de MC2. Alors on pense que l'efficacité dans le rayonnement des trous noirs, c'est de l'ordre de 10% de MC2, donc beaucoup plus grand que le 0,007 qu'on avait pour l'énergie nucléaire. Alors pour un trou noir qu'on appelle de Schwarzschild qui ne tourne pas, alors Jean-Pierre vous dira tout à l'heure qu'on a des caractéristiques très très simples pour un trou noir. Il y a la masse et puis il y a la rotation. Ici, premièrement, seulement une masse qui ne tourne pas. Alors vous avez quelque chose à symétrie sphérique et on peut montrer que des orbites circulaires encore stables ne sont possibles que dans l'endroit qui est un peu rose ici et qui est environ à 3 fois le rayon de Schwarzschild qu'on a décrit ici. Et donc ça fait à peu près 6 gemmes sur ces deux. Et quand on est dans cette dernière orbite stable, qu'on appelle ISCO Stable Orbit, hein, on est un peu plus loin de ces orbites qui tombent complètement et on n'a que 6% d'efficacité. Mais on voit que si le trou noir tourne vite, alors voici un trou noir qu'on appelle de Kerr, Kerr étant le premier à avoir calculé l'équation d'Einstein pour les trous noirs en rotation. On peut parler de la quantité sans dimension qu'on appelle A et qui est le moment angulaire J de rotation normalisé à la masse, etc. Donc si vous voulez, A égale 0 pour un trou noir sans rotation et au maximum, ça peut être égal à 1, c'est-à-dire on a une vitesse de la lumière au bord du trou noir. Ici, vous voyez qu'on brise la symétrie. Il y a une direction privilégiée qui est celle de la rotation. Donc on a une sphère qu'on appelle ergosphère qui est aplatie. On a des rayons, des horizons internes et externes. Et puis surtout, vous voyez que dans la dernière orbite circulaire stable, surtout si la matière tourne dans le même sens que le trou noir, on peut, alors là, c'est ce qui varie ici, c'est A, cette fameuse quantité de rotation, s'il le tourne au maximum, on peut avoir des orbites stables très près du trou noir. Et donc on va pouvoir récupérer beaucoup plus d'énergie et avoir des quasars beaucoup plus puissants si les quasars tournent. Et on verra au cours de ces cours que lorsqu'on a pu mesurer la rotation des trous noirs supermassifs, la plupart tournent pas mal, c'est-à-dire presque jusqu'au maximum. Alors voici la représentation d'un trou noir sans rotation, A égale 0. Là, on a vu qu'il y avait une orbite stable rose et puis des orbites non stables, et la matière tombe jusqu'en bas. Et puis, lorsqu'on a un trou noir maximum, qui tourne de façon maximum, vous voyez qu'on peut avoir des orbites stables plus près du trou noir. Alors, il y a aussi un effet relativiste très intéressant de distorsion de l'espace, c'est-à-dire que le trou noir entraîne l'espace dans sa rotation. Une particule est obligée de tourner dans le même sens. Alors, évidemment, si elle arrive dans le sens rétrograde, elle va prendre un certain temps et puis ensuite elle va se remettre à tourner. Et pour ce qui arrive dans le même sens que la rotation du trou noir, on va finalement tourner sur un disque d'accrétion qui va être aussi rentable que 30%. On va pouvoir récupérer non pas 6%, mais 30% pour un trou noir qui tourne de façon maximum. Donc ça, c'est très intéressant pour expliquer la très grande puissance des quasars. Alors ici, on a aussi une raie qui est très très intéressante, qui est la raie du fer. qu'on appelle K-alpha, parce que le premier niveau de fer est le niveau K, vous avez K-LM, c'est un petit peu comme l'arrêt Lyman, si vous voulez, de niveau de l'hydrogène. Que ce soit un fer neutre ou un fer légèrement ionisé, vous avez toujours ces niveaux-là. Et la première raie est très énergétique, donc on est au-delà de l'UV, on ne parle plus d'angstrom, etc. On parle cette fois-ci en énergie de kiloélectronvolts. Donc cette raie du fer K-alpha est à 6,4 kiloélectronvolts. Et puis celle de bêta, c'est le niveau suivant, est à 7 kiloélectronvolts. Et dans l'astronomie X, on voit ces niveaux qui sont émis très très près du trou noir. Donc c'est un outil très intéressant pour sonder si on a des effets relativistes au niveau du disque d'accrétion près du trou noir. Et par exemple, est-ce qu'on peut prouver si on a un trou noir en rotation ou non ? Alors voici des simulations de la raie que l'on attend autour d'un trou noir, soit en rotation ou non. Ici, c'est un trou noir de Schwarzschild sans rotation. Ici, un trou noir en rotation. Déjà, vous avez les couleurs qui vous donnent la vitesse autour du trou noir. Alors, ce que vous voyez ici, c'est bleu. Il y a un effet relativiste de boost. On a plus d'intensité sur le bleu. Alors ici, vous avez l'énergie. Donc, dans une raie de rotation, vous avez un pic qui va être dans le bleu, qui est plus fort que le pic rouge. Et puis aussi, vous avez un redshift, enfin un décalage vers le rouge gravitationnel. Donc, vous avez un décalage de la raie vers le rouge, ici. Et surtout, vous voyez qu'il y a quand même une ambiguïté ici. On ne sait jamais avec quelle inclinaison sur le plan du ciel est le disque d'accrétion que l'on observe. Donc, évidemment, si vous avez un disque complètement de face, vous n'allez pas pouvoir mesurer les vitesses. Donc, à 10 degrés d'inclinaison, vous avez ce spectre-là, à 30 degrés, puis à 60 degrés. Donc c'est ça qui est assez ennuyeux, c'est qu'on ne peut pas vraiment prouver qu'on soit dans ce cas-là, parce que le trou noir en rotation a un profil qui ressemble au trou noir sans rotation, mais avec une grande inclinaison. Donc finalement, il y a plusieurs paramètres ici. Il y a de toute façon cette grande aile de raie vers le rouge qui est prédite si on est vraiment très proche du trou noir dans la raie du fer. Et en effet, voici ce qu'on observe. On observe ce genre de raie de K-alpha dans des objets depuis une vingtaine d'années. Et cette raie est très très large. Elle fait l'équivalent de 100 000 km par seconde. Donc on est vraiment très très près du trou noir ici. On a pu montrer que ces spectres observés correspondent à un rayon, un anneau qui est un rayon interne de 7 fois le rayon de Schwarzschild. Donc on n'est pas encore assez près pour savoir exactement si c'est en rotation ou pas. Mais peut-être bientôt on aura plus de renseignements dans ce genre de. Alors, dans les rayons X, on a par exemple un satellite qui est en préparation, qui s'appelle Athéna, et qui va pouvoir faire ce genre d'observation. Alors, pour le spectre global, voici un petit peu ce que donne le spectre d'un quasar moyen. Alors, cette fois-ci, on n'a pas mis le flux, la luminosité, mais le produit de la fréquence par le flux, ce qui donne qu'à basse fréquence, vous avez moins d'énergie. Dans les basses fréquences, c'est-à-dire la radio, vous avez l'émission synchrotron, et puis optique UV, vous avez un plateau, et vous avez un deuxième plateau dans les rayons gamma, donc beaucoup plus énergique. Et on pense qu'on comprend un petit peu quels sont les mécanismes d'émission de toutes ces longueurs d'onde. Et on aura l'occasion d'y revenir et de détailler. Ici, on a dans ce diagramme toujours nu L nu. L'émission radio qui est synchrotron, donc des électrons dans le champ magnétique. On a ensuite des poussières qui, dans l'infrarouge lointain à 100 microns, il s'agit du disque d'accrétion qui a un grand nombre de poussières et qui est chauffé par le trou noir et donc qui rayonne beaucoup à 100 microns, comme un corps noir. Puis ensuite, la même chose, l'émission thermique, mais cette fois-ci beaucoup plus chaud, donc beaucoup plus près du trou noir dans l'UV et dans l'optique aussi, optique et UV. Et puis finalement, en X, vous avez des phénomènes synchrotron X aussi, des électrons qui rayonnent. Et aussi des effets Compton, des interactions électrons avec leurs propres photons, par exemple. Donc tout ceci vont nous renseigner sur quel est l'état de la matière très près du trou noir et à quel rayon elle se trouve. Alors j'ai symbolisé ici le zoo des AGN. AGN, c'est l'anglicisme pour Active Galactic Nuclei. Je pourrais dire NAG en français, mais même les Français parlent d'AGN, donc je préférerais garder le mot AGN. Alors, vous voyez que depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, on a accumulé tous les noms bizarres de blazar, de quasar, de radio-galaxie, etc. Mais il faut quand même se rendre compte que c'est toujours un petit peu la même chose, le même objet, que l'on voit sous différents angles et puis à différentes longueurs d'onde. Donc on essaie maintenant de réunifier un petit peu ces modèles-là. On sait que la caractéristique principale, c'est qu'ils émettent un continuum très très fort par rapport à une galaxie normale, qui a un tout petit volume avec une grande variabilité. Et puis on a tous ces objets qui paraissent variés, qui sont classés ici par intensité. C'est-à-dire que les plus forts sont les quasars, qui sont en général un peu silencieux en radio, pas complètement, mais on n'a pas de phénomène très violent en radio. On les appelle aussi QSO, pour quasi-stellar object. Ces objets-là représentent 1% de toutes les galaxies. Donc c'est quand même quelque chose de rare, un phénomène de quasar puissant. 1%. Dans ces quasars-là, qui sont vraiment très puissants, ceux qui ont des lobes radio et qui sont très forts en radio, c'est 10% de ces quasars-là. C'est-à-dire qu'on a 0,1% de toutes les galaxies qui seront des quasars forts en radio. Vous voyez, c'est vraiment très très rare. Ensuite, il y a des radiogalaxies qui sont plus fréquentes et qui sont moins intenses que les quasars. Alors là, il y en a plus proches. Par exemple, la galaxie de Centaurusa est une radiogalaxie. Et pourquoi plus proche ? Parce que lorsqu'on a un phénomène rare, comme 1% ou 0,1%, on est obligé d'explorer un plus grand volume et donc les quasars sont plus lointains. Donc tous les quasars très lointains, le plus proche, c'est 3C273, c'est quand même un 2 milliards d'années. Ici, on a des radiogalaxies assez proches, comme Centaurusa. Et puis, on a aussi les fameux blazars, qui sont un petit peu des quasars, mais avec des orientations très particulières. On a aussi ces objets qui sont des variables très violentes, qui sont dues aussi à des jets qui viennent vers vous. Donc je mettrai au même niveau. Et puis les galaxies de Seyfert, qui sont beaucoup plus nombreuses parce que ce sont des quasars plus faibles. Il y en a de deux catégories, on va voir pourquoi. Et puis après, on a des objets qui sont beaucoup moins ionisés. On a vu que les quasars étaient très ionisés avec des ions, avec beaucoup d'électrons perdus. Ici, c'est à faible ionisation. Et finalement, on tombe sur des galaxies où il y a un noyau avec une flambée de formation d'étoiles que parfois, dans l'histoire, on a confondu avec un noyau actif parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de supernovae dans un très, très petit volume. Et ça rayonne en X et ça rayonne en optique avec pas mal de variabilité aussi. Donc, on arrive à cette fin ici. Mais quand on considère les galaxies de faible luminosité, des quasars de faible luminosité, on peut aller jusqu'à 10 ou 20% de toutes les galaxies qui émettent ce genre de rayonnement. Alors, je reprends ces objets très particuliers qui sont des blazars et des variables. Vous voyez que ça varie très violemment, avec un rapport très intense. Et ce qui est très bizarre aussi, c'est que ces BLA sont des continuums purs par rapport à un quasar moyen qui a des raies d'émission, comme on a vu déjà, avec un continuum, d'accord, mais des raies d'émission qui sont assez fortes. Alors pourquoi le blazar n'a pas de raies d'émission ? Et c'est tout simplement parce que le continuum est très amplifié par l'effet de boost relativiste vers vous. Les raies y sont, mais elles sont diluées dans le continuum qui domine tout. Alors en effet, le continuum, c'est le jet qui vient vers vous, il n'a pas de raies. Donc les raies ne sont pas amplifiées, il y a seulement le continuum est amplifié. Donc ça noie les raies complètement, et donc vous avez un continuum. Et ça, c'était un mystère pendant un moment, puisque vous n'avez pas de raies pour savoir quelle est la distance de cet objet. Donc on ne savait pas où était vraiment l'objet. Maintenant, on a des instruments avec une dynamique plus grande, et on a pu détecter les raies dans ce continuum et savoir à quelle distance sont ces objets. Mais ce sont des objets très particuliers. Alors, les raies d'émission, on va le voir aussi dans les cours qui suivent, on va être un outil vraiment très précieux. Alors évidemment, j'en ai déjà parlé, tous ces raies-là vont nous donner la température en fonction du rayon, la variabilité, donc la taille de la région, etc. Mais aussi, on va voir que on va pouvoir déterminer la masse du trou noir grâce à ces raies. Les raies vont nous donner, par exemple, il y aura une réflexion du continuum, du quasar, sur les zones à grande BLR ou à NLR, c'est-à-dire à raies larges ou à raies étroites. Et selon la réflexion, on va pouvoir connaître la distance de la région émettrice et, par le théorème du Verriel, avoir la masse des trous noirs. Donc ça va être un point important. Et puis aussi, ça permet de sonder les galaxies très loin dans l'univers. Jusqu'à une époque très récente, les objets les plus lointains, c'était des quasars. Par exemple, un décalage vers le rouge de 5 à 6, c'est-à-dire à 1 milliard d'années après le Big Bang, on voyait que des quasars. Aujourd'hui, c'est le contraire. Maintenant, on a des instruments plus puissants qui permettent de voir les galaxies. Et c'est les galaxies qui sont plus lointaines que les quasars aujourd'hui. Les quasars descendent. On ne voit plus de quasars au-delà de Z égale 7 pour l'instant. Alors, les conditions physiques dans ces objets sont aussi données par ce fameux diagramme de rapport de Rey qui a été fait par Baldwin, Phillips et Terlovich il y a 30 ans, plus de 30 ans, et que tout le monde utilise encore aujourd'hui, un diagramme BPT du nom des auteurs. Alors, qu'est-ce que c'est que ce genre de diagramme? Il s'agit de rapport de Rey. Évidemment, on ne va pas prendre dans l'absolu, puisque à ce moment-là, on a des problèmes de distance, etc. On prend un rapport de Rey, par exemple, N2 sur H alpha et O3 sur H bêta. L'avantage d'avoir ce rapport de Rey, c'est que c'est des raies très proches dans le spectre. Donc, certainement, elles ont le même rougissement si vous avez de la poussière entre le quasar et vous. Donc, ces deux-là ont été très, très utilisés. Alors, ce que vous voyez, c'est une mouette. On appelle ça la mouette. Vous avez l'aile gauche de la mouette qui représente en jaune les galaxies normales, c'est-à-dire que le gaz est ici ionisé, c'est des régions H2, par les étoiles, photo-ionisées par les étoiles, donc à une excitation assez faible, même pour les étoiles OB qui ionisent le gaz. Et par contre, toute l'aile droite de la mouette, il s'agit des noyaux actifs, alors des noyaux actifs de plusieurs degrés. Ici, vous avez des galaxies de Seyfert les plus intenses, et puis ensuite, liner, faible ionisation, et puis des objets de transition. Donc tout ça, ce sont des noyaux actifs, si vous voulez. Ils ne sont pas autant que les quasars sont encore plus hauts, mais sont des noyaux actifs et non pas. Le gaz est ionisé par le trou noir et non pas par les étoiles. Alors voici en gros la différence entre un objet où l'ionisation n'est due qu'aux étoiles, donc région H2. Vous voyez qu'il y a très peu de continuum, il y a des raies très étroites, et puis on commence à avoir des objets qui ont une faible ionisation mais qui ont un fort continuum et puis des raies qui commencent à être larges. Et puis des raies de Seyfert. Alors, si on prend en compte tous ces, en quelque sorte, noyaux actifs, mais de faible luminosité, à ce moment-là, vous pouvez avoir deux tiers des galaxies de type elliptique ou même de spirale à bulbe SB qui sont actives, qui ont un noyau actif. Donc, vous voyez que ce n'est pas si rare, finalement. Ce qui est rare, c'est vraiment le quasar qui fait 1000 fois la galaxie. Ici, vous avez deux tiers des galaxies. Et puis, pour les galaxies de type tardif qui sont SC et SM, beaucoup moins. Alors, pourquoi beaucoup moins ? C'est que, comme on va le voir tout à l'heure, la masse du trou noir dans les galaxies n'est pas proportionnelle à la masse de la galaxie, mais proportionnelle au bulbe de la galaxie. Et des galaxies de type tardif dans les spirales de la séquence de Hubble n'ont très peu de bulbes, donc un trou noir très petit, donc elles ne sont pas un noyau actif très petit, alors que celles qui ont un gros bulbe, deux tiers des galaxies sont actives. Alors j'ai parlé aussi de ces deux régions NLR et BLR, régions à raies étroites et raies larges. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'on a vraiment confirmé la localisation, même si on n'a jamais vu, hein, mais la localisation de ça autour du trou noir. Vous avez ici un petit modèle de trou noir avec G, et puis on pense qu'il y a un tore de moléculaire qui va obscurcir le trou noir central et puis la raie à raies larges. Alors la région BLR, donc à raies larges, c'est celle qui est en bleu ici, ce sont des petits nuages qui sont très près du trou noir, d'où les raies très larges. Et puis, celles qui sont NLR sont un delta V qui est de l'ordre de 500 km par seconde au plus, c'est-à-dire du même ordre que la rotation de la galaxie. Donc, c'est des nuages qui sont en jaune ici et qui sont diffus et le plus loin du trou noir, donc ce qui explique la vitesse. Et puis, comme c'est diffus, il y a des raies interdites. Et ici, vous voyez que... alors, je n'ai pas parlé de ces raies-là où le crochet n'est que d'un côté. Ce sont des raies semi-interdites. Pourquoi semi-interdites ? C'est que la densité critique pour l'interdire était quand même plus grande que 10 puissance 3 particules par centimètre cube. Donc, elles sont quand même permises à une certaine densité. C'est quelque chose d'intermédiaire entre les raies permises et interdites. Donc, on peut avoir la température de ces régions-là. Alors, entre les Seyfert 1 et les Seyfert 2, comme on va le voir, la grande caractéristique des Seyfert 2, c'est qu'on ne voit pas de BLR. Donc, au début, c'était un mystère. Maintenant, on pense que dans la Seyfert 2, on regarde la BLR à travers ce tore moléculaire qui est plein de poussière et qui nous obscurcit la région BLR. Et c'est uniquement les mêmes objets, mais les uns sont vus à travers le tore et non. Donc, on a ce modèle d'unification, si vous voulez, des AGL, qui est que ici, on a le trou noir avec un petit disque d'accrétion, et puis ce tore moléculaire qu'on a mis par la tranche et dont on a fait une coupe. Donc ce tore en orange ici. Donc si vous regardez de ce côté, vous voyez que vous ne verrez pas la BLR. La région qui est proche du trou noir, vous ne la voyez pas. Ce que vous voyez, c'est tout ce qui est là, le gaz diffus, qui est loin du trou noir, et donc il y a des raies étroites. Donc vous voyez que les raies étroites Par contre, si vous regardez le même objet, mais ici, vous voyez des raies larges et des raies étroites. D'où l'idée que ces deux sont le même objet, mais vus à des angles différents. Alors, une confirmation de cette idée est le fait que dans la raie polarisée, dans l'émission polarisée, on voit les raies larges pour les CFR2. Alors, une CFR2 typique, c'est NGC 1068, c'est une galaxie proche. Vous voyez que le continuum total, on a la raie très étroite. Alors, regardez les échelles, ici, c'est 400. Et lorsqu'on prend une raie polarisée, elle est très peu polarisée, on tombe à 4, c'est-à-dire 100 fois inférieure à cette raie. Et on commence à voir des raies larges. D'où l'interprétation, ici, vous voyez qu'on a un tore moléculaire qui absorbe de tout. Donc, l'œil, ici, ne voit pas la BLR qui est ici, parce qu'on est obscurci par le tore. Par contre, le rayonnement de la BLR va être diffusé par les électrons de la NLR, et donc cette diffusion, cette réflexion, va créer une raie polarisée. Donc si vous regardez avec des lunettes polarisées, un peu comme les lunettes solaires qui polarisent, vous verrez que la réionisation et vous voyez les raies larges. Donc ça montre bien que la BLR est cachée derrière. Elle existe, mais elle est cachée. On a aussi d'autres galaxies de ce même type, là, de CFR2, toujours en flux total. Vous avez des raies étroites, et vous voyez qu'en polarisé, c'est quand même 100 fois plus faible, mais vous commencez à voir les raies larges. D'où réflexion par la zone diffuse et ionisée qu'il y a autour. Donc on arrive un petit peu à ce schéma-là, bien qu'on n'ait jamais vu ce genre de quasar, hein, mais on arrive à ce schéma qui est le trou noir au centre, le disque d'accrétion. Alors il y a aussi ce qu'on appelle un vent. Il y a un jet ici, vous voyez un jet très fin, qui est d'un plasma et qu'on voit en radio. Je vous ai montré une radio source avec un jet très très fin. Mais on a aussi, on pense qu'il y a un vent de gaz ionisé, des nuages. Et on se demande encore si la BLR est dans le disque d'accrétion, d'ailleurs un petit peu autour du disque, mais un petit peu qui est dans le vent. Alors ce vent, c'est un cône ici, vous voyez, de nuages un petit peu rosés. Et c'est un cône, pourquoi ? Parce qu'on a le tore moléculaire qui empêche à ce vent de partir dans l'autre direction, dans la direction du disque. Alors, quand on regarde dans cette direction, on a une CFR2, hein, obscurcie, on ne voit pas la BLR, et quand on regarde dans cette direction, une CFR1. Donc, voilà un petit peu l'idée que l'on se fait de cette galaxie de CFR. Et ce qui confirme bien ce phénomène, c'est qu'on voit des cônes d'ionisation. Alors, on a le tore moléculaire ici qui obscurcit, et puis le quasar avec le vent de gaz ionisé a créé une cavité en quelque sorte. Et cette cavité laisse passer les photons du quasar qui ionisent tout le gaz. Vous voyez qu'on voit bien, ça c'est une observation en O3, donc de la NLR, des raies interdites, et on voit bien le gaz diffus qui n'est éclairé que dans le cône. Donc il y a bien un tore moléculaire qui obscurcit dans cette direction. On a bien ces cônes d'ionisation et ça correspond vraiment à ces jets de BLR. Donc encore une vue schématique pour montrer un petit peu ce qu'on pense voir. Alors, il y a un autre phénomène dont je n'ai pas parlé, c'est le phénomène de gaz qu'on voit en absorption très large. On appelle ces objets BAL pour Broad Absorption Lines. Large, c'est vraiment énorme, c'est-à-dire 60 000 km par seconde de large. Donc on a l'impression que c'est quelque chose qui n'est pas dérialisé, qui n'est pas en rotation, parce qu'il est assez loin du trou noir, mais il n'est pas en équilibre du Verrier, il est en éjection, d'où l'idée de ce vent de gaz qui est éjecté. Et lorsqu'on regarde ici, on va voir justement le phénomène de BAL. Ici, vous avez disque d'accrétion, le trou noir, et vous avez un petit peu la géométrie qui est décrite ici, la physique, où vous avez les colonnes densité, les densités, et puis les vitesses. Donc, toutes ces vues, ce sont quand même des schémas, hein, et on commence à faire des recoupements et à voir, par exemple, ce phénomène de BAL, justement, c'est-à-dire d'absorption très large, qui serait dû à du gaz qui s'échappe du disque d'accrétion, sans doute dû au fait que le quasar est tellement lumineux qu'il commence à faire évaporer le gaz dans ces directions. Et on a l'impression qu'il y a des tubes de gaz qui sont en éjection. Alors on voit dans les spectres de raies, on voit trois genres de milieux, un de haute ionisation, d'autres de faible ionisation et l'intermédiaire. Et on pense qu'il s'agit simplement de la ligne de visée qui traverse ce tube de gaz. Et évidemment, au bord, c'est plus ionisé qu'au centre où on est abrité de l'ionisation au centre. Donc on arrive à essayer de recouper et de reconstruire la vue en trois dimensions. Donc voici encore une vue de ce nouvel élément, c'est-à-dire du flux de gaz ionisé qui se trouve dans un cône. Alors on pense que le cône est creux parce qu'on ne voit que très rarement ce genre de grande raie d'absorption à 60 000 km par seconde. Donc on pense qu'il n'y a qu'autour d'un cône creux, ici on n'aurait pas d'absorption. Donc ici toujours le trou noir, le disque d'accrétion, la BLR ici et la NLR au bord. Vous voyez, tout ça c'est sans doute des visions qui s'approchent de la réalité et je représente un petit peu tout le sorte d'objets que vous avez. Donc vous avez ce qu'on a vu, les blazars ou Bell Lac, qui sont des continuums complets, le sphère de quasar normal. Vous avez une galaxie normale pour comparer, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de raies d'émission, il n'y a que des raies d'absorption. Ces raies d'absorption, c'est les raies stellaires, donc c'est les étoiles, l'atmosphère des étoiles absorbe. Voici une galaxie normale, vous voyez que les galaxies actives, c'est complètement différent, un quasar est différent. Une CFR1 qui a des raies larges, une CFR2 qui a des raies étroites, et puis aussi des radiogalaxies à raies larges, toujours la même chose, un trou noir au centre, raies larges et raies étroites, sans doute, qu'on voit à travers le tore moléculaire, donc la raie large ne peut pas être vue. Donc tout ça, on commence par ce schéma et cette vision unificatrice à retrouver toujours le même objet dans des manifestations différentes observationnelles. Par exemple, dans les radiosources, il y a aussi deux types de radiosources. Alors là, j'en parlerai aussi dans une autre séance où on regardera la dynamique des jets, qui sont du plasma, donc des électrons relativistes. Cette classification a été faite par Fanaroff et Riley. Donc on garde le nom des auteurs FR pour FR1 et FR2. Les FR1, ce sont des jets où le plus brillant est près du trou noir. Donc, vous voyez qu'ici, c'est dans cette zone, et ces jets sont ensuite assez tordus par le mouvement de la galaxie dans le milieu intergalactique. Et puis les FR2, ce sont des radiosources où le plus brillant est au bord. On a des points brillants dans les lobes radio. On pense que, alors ceci, ces objets-là sont beaucoup plus puissants que cela, et on pense que c'est une évolution ultérieure d'un type vers l'autre. Et ici, on sait qu'il y a un des lobes qui vient vers vous, c'est pour ça que vous voyez un G et vous ne voyez pas l'autre, mais évidemment, c'est symétrique en réalité. Ici, c'est seulement un effet relativiste. Et on a bien confirmation de cela, parce que ce lobe-là est le plus proche, vous le savez, parce que si vous avez beaucoup d'électrons sur la ligne de visée entre vous et l'émission, vous avez une dépolarisation Faraday due aux électrons, et le moins dépolarisé, c'est celui-ci, donc c'est le plus proche de vous. Alors, on a aussi une petite idée de ce qui crée ces radiosources. Il s'agit du spin du trou noir. On va l'expliquer plus en détail plus tard, mais on pense qu'il y a plusieurs paramètres, au moins trois paramètres. La masse du trou noir, bien sûr, qui va être, plus vous accrétez sur un trou noir massif, plus vous aurez de luminosité. Vous avez aussi le taux d'accrétion de matière, parce qu'on a beaucoup de trous noirs dans notre voisinage, puisqu'on va voir que chaque galaxie a son trou noir, mais la plupart des galaxies n'ont pas d'alimentation, ne sont pas alimentées par du gaz. Donc la luminosité, c'est le taux d'accrétion. S'il n'y a pas de gaz autour, vous allez être un trou noir, quelle que soit sa masse, qui n'aura pas d'activité. Donc vous voyez que tous les quasars se trouvent sur cette droite-là, à trois dimensions, je ne sais pas si vous le voyez à trois dimensions, mais cette troisième-là est due au spin du trou noir. Donc plus le trou noir a une grande rotation, plus vous avez des jets. Sans doute, du moment angulaire doit être évacué dans les jets, vous avez des lobes radio. Alors, la relation dont je parlais à plusieurs reprises entre la masse du trou noir et la masse du bulbe, la voici. On a été surpris parce que les gens pensaient au départ que simplement une galaxie de masse totale plus grande aura un trou noir plus grand. En fait, ce n'est pas vrai, ça ne dépend pas de la masse du disque. Donc si vous avez une galaxie à disque qui n'a pas de bulbe, elle n'aura pas de trou noir. Et c'est un peu le cas de la Voie lactée qui est un tout petit bulbe. Donc le trou noir de la Voie lactée, c'est seulement 3 millions de masses solaires, alors que la plupart des trous noirs des galaxies voisines, comme Andromède par exemple, a 30 fois plus de masse dans son trou noir, alors qu'elle a la même masse totale que la Voie lactée. Mais elle a un plus gros bulbe. Donc le trou noir est vraiment proportionnel à la masse du bulbe et non pas à la masse de toute la galaxie. Donc vous avez ici la masse du bulbe, la masse du trou noir. Vous voyez qu'il y a une bonne corrélation. Et cette corrélation est meilleure encore si vous passez dans la dispersion de vitesse qu'il y a au centre. La dispersion de vitesse, c'est un peu le puits de potentiel qu'il y a au centre. Et ça mesure mieux le bulbe, en fait, parce que très souvent, on a du mal dans une galaxie à distinguer la masse du bulbe et la masse du disque parce qu'il faut séparer les deux composants. Et il y a un petit peu un overlap entre les deux. Par contre, si vous prenez le puits de potentiel, donc la dispersion de vitesse au centre, vous avez quelque chose qui est mieux, il y a moins de dispersion dans cette relation. Donc il y a une relation beaucoup plus fine, mais c'est certainement la même, c'est-à-dire que c'est toujours proportionnel à la masse du bulbe. Donc le rapport de masse entre trou noir et bulbe est de 0,5%. Donc le bulbe domine en général, sauf si vous approchez du trou noir, domine la gravité du centre. Alors voici une des plus récentes relations entre sigma, c'est-à-dire la masse du bulbe en quelque sorte, et la masse du trou noir. Vous voyez qu'on a à peu près un grand nombre de mesures étroites. En fait, ce sont des mesures qui ne sont pas forcément sur des noyaux actifs. Ce sont sur des galaxies proches, par exemple la nôtre, la Voie lactée ou Andromède. Ce ne sont pas des noyaux actifs, ce sont des trous noirs silencieux qui sont là. Mais comme les galaxies sont proches, on peut mesurer la vitesse du gaz et des étoiles autour et par simplement le théorème du Verriel, mesurer la masse du trou noir, même s'il n'est pas actif. Donc voici un peu la relation que l'on a. Donc 0,5 la masse du bulbe. Et parfois, il y a quelques exceptions. On commence à comprendre ces exceptions. Elles sont toutes au centre des amas, donc des galaxies cannibales qui avalent beaucoup d'autres galaxies. Et on sait qu'à l'intérieur des amas, tout le gaz est balayé par le vent intergalactique et on n'arrive pas à former les étoiles. Donc ce n'est pas qu'elles ont un trop grand trou noir, c'est qu'elles n'ont pas assez d'étoiles. Normalement, elles devraient être par là. Et elles n'ont pas rattrapé, la formation d'étoiles n'a pas rattrapé la masse du trou noir. Alors comment croît le trou noir ? Là, on doit introduire cette notion de limite d'Eddington, qui est que même si un trou noir a beaucoup de gaz autour, beaucoup d'alimentation, il ne pourra pas avaler tout ce qu'il a. Pourquoi ? Parce qu'il y a du gaz qui tombe dessus, donc on a une grande activité du trou noir, et donc ça va faire un phénomène lumineux très grand, donc une très grande pression de radiation. Et cette pression de radiation va s'opposer à la gravité. À bout d'un moment, le gaz ne tombe plus. Il est plutôt éjecté par la luminosité, la pression de radiation. On peut calculer la luminosité maximum que peut avoir un trou noir de masse M. C'est ce qu'on appelle luminosité d'Eddington, le premier qui a trouvé cette relation. Et vous voyez que pour un trou noir de masse 10 puissance 8, typique pour une galaxie extérieure, on a une luminosité maximum de 3,3 10 puissance 12. Et ça vous donne aussi la quantité que l'on peut absorber, puisque on sait qu'on a une efficacité de 10%. C'est-à-dire que si vous avalez M, la luminosité, ce sera MC2, 10%. Donc si on suppose que c'est 10%, la quantité de gaz que vous accrétez, que vous mangez, est proportionnelle à la luminosité maximum. Donc ce que vous pouvez avaler, à un moment donné, c'est 2 masses solaires par an. C'est assez peu, finalement. Enfin, c'est quand même beaucoup, surtout s'il faut savoir sur quelle durée de temps vous allez avaler tout ça. Alors, la durée du cycle, le repas, si vous voulez, le repas du trou noir, quel est le cycle ? En fait, on sait qu'un trou noir ne mange que très peu de temps. Pourquoi ? Simplement, on sait qu'il y a un trou noir dans chaque galaxie et que, par exemple, un trou noir lumineux, un quasar, ce n'est que 1% des galaxies. Donc, c'est le temps du repas, c'est 1% de sa vie, si vous voulez. Ou alors, s'il avale beaucoup moins, s'il y a des petits repas, ça peut être un peu plus long, parce qu'on a 10% de galaxies qui sont une activité de ce type. Donc, vous pouvez calculer, rien qu'avec des statistiques, à quelle fréquence vous voyez un trou noir actif, quand il mange, quoi, en quelque sorte, et vous en déduisez que la phase d'activité est de l'ordre de 50 à 100 millions d'années. Ce qui est peu pour la durée de vie d'une galaxie qui est plutôt de l'ordre de 10 milliards d'années. Donc vous voyez que la plupart du temps, le trou noir jeûne. Alors si vous regardez ce qu'il va manger pendant cette période d'activité, et en général on sait que cette activité est continue, parce que quand vous voyez des jets radio, vous pouvez les suivre pendant longtemps, vous savez qu'elle est continue pendant 100 millions d'années. À ce moment-là, vous voyez que vous avez 2 masses solaires par an, donc il faut avoir 2 10 puissance 8 masses solaires à manger pendant ce repas. C'est la masse du repas du trou noir. Alors ça, c'est un problème. Comment peut-on apporter 2 10 puissance 8 masses de gaz, par exemple, autour du trou noir en un temps dynamique ? Parce que dans une galaxie comme la Voie lactée, par exemple, le milieu interstellaire total, c'est de l'ordre de 2 10 puissance 9 masses solaires. Mais c'est très loin. Le rayon d'action du trou noir est très petit. Vous n'allez pas pouvoir manger tout le gaz de la galaxie. Vous allez pouvoir manger seulement le gaz qui est très proche du trou noir. Et vous n'avez jamais 2 10 puissance 8 masses solaires très proche du trou noir. Là, il y a un grand problème. On va y voir si on arrive à le résoudre. Alors peut-être que, vous voyez, le problème, c'est ça. On a du gaz, mais qui est très loin, et le rayon d'action du trou noir est très petit. Comment vous allez convaincre ce gaz de tomber sur le trou noir ? Ou alors, qu'est-ce que vous allez avaler? Vous allez avaler peut-être des étoiles. Les étoiles sont plus concentrées au centre que le gaz. Alors, est-ce que même la perte de masse des étoiles? Alors, une étoile moyenne perd que 10-11 masse solaire par an. Ce n'est pas beaucoup, ça ne va pas suffire. Ou alors, il faudrait qu'il y ait une grande flambée de formation d'étoiles, hein, ce qu'on appelle starburst, d'étoiles O et B, qui perdent beaucoup de masse. Et à ce moment-là, peut-être, on pourrait commencer à voir, mais ce n'est pas suffisant. Ou alors, vous pouvez... je vais essayer de vous montrer quelques processus, deux ou trois, par exemple les collisions entre étoiles, pour voir si vous pouvez forcer les étoiles à tomber sur le trou noir. Alors d'abord, je calcule le rayon d'accrétion du trou noir, le rayon où, au-delà de ce rayon-là, la gravité du trou noir est complètement insensible. Alors pour ça, je prends la vitesse au carré de la rotation de la galaxie, donc le bulbe crée cette vitesse-là, 200 km par seconde, je regarde le rayon autour duquel le trou noir va commencer à être actif au point de vue de gravité. Et à ce moment-là, c'est bien Gm sur V2. Donc vous avez un rayon là, on va le reporter sur un graphique, donc ce n'est pas la peine de le retenir, mais en gros pour un trou noir classique. Et puis vous avez un trou noir, un rayon aussi pour les collisions. Alors les collisions entre étoiles vont être efficaces lorsqu'il y aura un grand nombre d'étoiles, évidemment, au centre on pense qu'il va y avoir un grand nombre d'étoiles, et aussi qui vont rentrer en collision avec une grande vitesse. Alors la vitesse autour du trou noir, c'est de cet ordre-là, hein, V2 étant Gm sur R. Et puis, si elle est comparable à la vitesse d'échappement de l'étoile, vous allez avoir des étoiles qui vont être détruites par collision et qui vont être mangées, réduites en nitrate de gaz, et qui vont être mangées par le trou noir. Vous avez aussi un rayon de marée, ça c'est très intéressant. Comme vous le savez, la marée est active lorsque la densité moyenne autour du trou noir ou autour de l'astre qui crée la marée est égale à la densité moyenne de l'objet. À ce moment-là, il y a une compétition entre force de cohérence de l'objet et force de marée. Et on a cette relation-là. Et on a, par exemple, destruction par effet de marée d'une étoile et avalement, enfin, le trou noir va avaler le gaz de l'étoile, ici. Et puis, enfin, aussi, un autre phénomène, c'est que s'il y a beaucoup, vous bombardez de rayonnement parce que vous êtes très près du quasar, l'étoile va être bombardée de rayonnement. Et donc, si le rayonnement est assez grand sur l'enveloppe de l'étoile, comparable à la propre luminosité des Dington, c'est-à-dire que la pression de radiation est comparable à la gravité, vous allez enfler les étoiles. Ce sont des étoiles qu'on appelle étoiles boursouflées, qui sont donc plus fragiles pour perdre de la masse. Donc, on peut reporter tous ces rayons-là sur ce diagramme-là. Vous avez la masse du trou noir ici. Vous avez aussi le rayon de Schwarzschild, là, le rayon du trou noir, qui est proportionnel à la masse. Vous avez le rayon d'accrétion. Donc, en dessous de ce rayon, la gravité du trou noir commence à dominer par rapport à la gravité du bulbe. Vous avez le rayon de collision. Donc, en dessous, vous pouvez avoir des collisions d'étoiles. Vous pouvez, en dessous de RE, vous aurez des étoiles boursouflées. Et puis, vous avez le rayon de marée. Alors, ça, c'est intéressant, puisque vous voyez que ce rayon de marée va être inférieur à l'horizon, avec une masse qu'on appelle masse de Hills, qui est 3 10 8, c'est-à-dire que l'étoile ne sera pas détruite par effet de marée, elle va rentrer dans le trou noir directement, elle va être gobée toute crue, sans qu'il y ait de gaz qui va rayonner, et finalement ça ne nous arrange pas, parce que si on veut expliquer la luminosité du quasar, on n'aura pas de noyau actif. Alors, peut-être que ce qui va vous aider, c'est le pic d'étoiles, le pic de densité d'étoiles que vous attendez autour d'un trou noir. Ça, c'est quelque chose qui avait été déjà calculé par Young dans les années 80. On s'attend, par relaxation d'étoiles, si on est dans le rayon d'action du trou noir, on s'attend à avoir un pic d'étoiles. S'il n'y avait pas de trou noir, on aurait un cœur, c'est-à-dire un plateau de densité. Et si on a un trou noir, vous voyez qu'on pourrait avoir un pic. Ça va favoriser peut-être le fait qu'on ait beaucoup d'étoiles qui pourront rentrer en collision et alimenter le trou noir. Mais en fait, le gros problème, c'est que quand on regarde dans la distribution des étoiles autour du trou noir, on n'en voit pas. Ça n'a pas l'air de correspondre à ça. Alors, une des explications qui a été avancée, c'est de dire que les galaxies sont toujours en fusion. Il y a beaucoup de fusion entre galaxies. Alors, voici une simulation qui a été faite en 2001 par Minosalesis et Merritt. Deux galaxies avec leurs trous noirs respectifs. Et on suppose qu'il y a un pic d'étoiles. Donc, ce que vous voyez en contour, c'est la densité des étoiles. Donc, vous avez deux trous noirs et deux pics. Et puis, le trou noir va fusionner. Donc, on va par friction dynamique envers les étoiles. C'est-à-dire que l'énergie orbitale des deux trous noirs l'un autour de l'autre va être donnée aux étoiles. Donc vous allez chauffer les étoiles pour permettre à cette énergie orbitale de... donc les deux trous noirs vont spiraler l'un vers l'autre et vont fusionner ici. Et vous voyez que cette énergie qui est donnée par fission dynamique va chauffer les étoiles et vous n'avez plus de pic. Donc ça, c'est une explication du fait qu'on ne voit pas de pic d'étoiles, en fait. Peut-être qu'il y a un grand nombre de fusions de galaxies. On sait ça, qu'il y a un grand nombre de fusions de galaxies et correspondamment une fusion de trous noirs. Donc les étapes de la croissance de trous noirs maintenant. Donc on va atteindre la limite de Hills, donc quand le trou noir ne va plus disloquer les étoiles de marée. Alors ça, je l'ai déjà dit au départ, hein, que puisque le rayon de l'horizon est proportionnel à M, la densité moyenne dans ce rayon est en 1 sur N2, donc on voit bien que pour les grands trous noirs, on ne va pas avoir des effets de marée qui vont détruire. Ça, je l'ai déjà dit, ça c'est un phénomène remarquable. Et puis, à quelle vitesse va-t-on croître le trou noir ? Alors, on ne va pas pouvoir avaler plus que la luminosité d'Eddington. Donc, on va supposer qu'on part d'un trou noir de masse stellaire, mettons 10, une grosse étoile de 10 masses solaires, et on va voir à quelle vitesse ce trou noir va croître en fonction du temps. Si on est tout le temps alimenté, c'est-à-dire au maximum, on a toujours du gaz autour, et vous voyez que la variation, la LE, c'est le dm sur DE. Si ce dm sur dt est proportionnel à la masse, on a une croissance exponentielle. Donc la masse du trou noir croît exponentielle et on peut calculer qu'il faut, pour obtenir la masse de Hills, qui est 3 puissance 8, il faut 1,6 milliard d'années. Alors ça, c'est peut-être un modèle un peu simpliste parce que ça veut dire qu'on est tout le temps alimenté, ce qui n'est pas vrai. Et on prédit un pic de quasar à z égale 4, ce qui n'est pas vrai non plus. On sait qu'il y a un pic de quasar à z égale 2, donc plus tard. Mais c'est déjà assez rassurant parce qu'on arrive à former quand même des quasars assez tôt. Mais tout de même, on a des quasars qui se forment encore plus tôt. Le quasar le plus lointain aujourd'hui, c'est celui-ci. Il est à peu près à z égale 7,1, c'est-à-dire 700 millions d'années après le Big Bang. C'est beaucoup moins que le 1,6 milliard. Et celui-ci, il a des masses qui sont 1 milliard de masses solaires, au-delà de la masse du Hills. Donc ça, ce genre de trous noirs, on n'en a pas encore beaucoup. On ne sait pas comment on les forme. En tout cas, on ne les forme pas à partir d'une masse stellaire. Peut-être qu'il y a d'autres processus qui sont envisagés aujourd'hui, c'est-à-dire l'effondrement d'un système qui est beaucoup plus grand que les étoiles. On formerait donc déjà un objet de 10 ou 100 000 masses solaires dès le départ. Alors, si on commence là, la croissance exponentielle peut arriver jusqu'à 10 puissance 9 aujourd'hui. Alors, que connaît-on du nombre de quasars ? Est-ce qu'il y a assez de statistiques connues ? Voici un peu les chiffres qu'on connaît aujourd'hui. On a fait beaucoup de progrès. 300 000 quasars qui sont connus en spectroscopie. 1 million peut-être qui sont encore des candidats dont on n'a pas encore fait le spectre. Alors, tout ça, ça vient des grands surveys qui ont été faits par le Sloan, le quasar survey ici en Australie. Et puis d'autres catalogues. Ça, c'est en optique. Il y en a en rayons X, parce que tous les trous noirs sont remarquables pour les rayons X. Il y a aussi en radio, avec tous les télescopes radio. Donc on a quelque chose comme des millions maintenant de quasars. Vous voyez la distribution de quasars dans une tranche d'univers ici. Et optiquement, on a ce genre de raies pour aller les observer à très grande redshift. Vous voyez qu'en Lyman alpha, on a un certain nombre qui va être redshifté, enfin décalé vers le rouge lorsqu'on remonte le temps. Et on va changer de raie à chaque fois qu'on va faire des surveys de quasars. C'est ça qui est fait dans les surveys que je vous ai montrés. Donc finalement, je vais terminer ce survol qui vous a montré un petit peu ce qu'est un quasar, un noyau actif, mais qu'on va approfondir dans les cours suivants. Alors, vous voyez cette parabole de l'éléphant et des scientifiques aveugles, alors qu'ils se mettent un cache devant les yeux, est tout à fait appropriée à notre quasar. Notre objet central, là, on ne peut pas le résoudre, et on n'a que des observations un petit peu disparates pour les voir. Alors, par exemple, un des observateurs regarde la défense de l'éléphant et pense que l'objet, c'est une lance. L'autre regarde les oreilles et pense que c'est un éventail. L'autre, un arbre, en voyant le pied, ou alors un autre, une corne. Donc je pense que cette parabole s'applique vraiment au quasar. On a des tas d'objets, des blazars, des radiosources, etc. Et on essaie d'unifier tout cela et de voir comment ces galaxies se forment avec les trous noirs au centre. Donc encore bien des questions qu'on va résoudre dans les cours suivants. Merci beaucoup de votre attention.